Je demande aux gens qui sont au fond d'avancer sans crainte. Monsieur le directeur général, monsieur le président, messieurs, mes chers confrères, j'aurai aujourd'hui au moins deux excellentes raisons de me taire, puisque je dois parler, je vais essayer de le faire en peu de mots, et comme je n'ai aucune confiance en ma brièveté, si je me laissais aller à des remerciements sans notes, je m'excuse, mais j'ai préféré prendre un papier, je crois que ça sera un peu plus rapide. Et pourtant que de souvenirs. La présence ici de M. Samaran, qui fut mon maître avant de devenir mon directeur, qui m'a fait nommer dans ce département, le mien, voilà 24 ans, me rappelle des souvenirs de déménagement d'archives, de déménagement sportif, pour lui, pour moi-même, pour ma femme. Déménagement sportif prélude à celui plus important, mais moins sportif, de l'an passé. Puis, les années de l'occupation terminées vinrent celles de l'après-guerre. Alors, M. Charles Bréban entreprit de couvrir la France de ce blanc manteau d'archives qui continue de se répandre sur le sol de l'Hexagone. Et ce fut alors l'inauguration de notre minutier central des notaires que nous venons enfin rejoindre ici. J'étais jeune, sous des apparences trompeuses, j'avais parfois mauvais caractère, cela m'arrive encore, je m'en accuse devant vous, Monsieur le Président, heureusement que j'ai un bon président. Mais la présence ce matin, Monsieur le Directeur Général, à vos côtés de vos deux prédécesseurs, si elle me touche profondément, manifeste surtout, je crois, une vertu de notre métier qui est la continuité. Pour vous, l'un de vos premiers actes aura été, en nous réunissant à nos collègues des musées et des bibliothèques, et n'oublions pas l'acte le plus récent, hier, en ouvrant le dialogue avec les universitaires, l'un de vos premiers actes aura été de nous rappeler que rien ne se fait sans cette chaleur des épaules voisines d'hommes tendues dans la course vers le même but dont parle Saint-Exupéry. Au reste, la présence des membres éminents du Conseil international des archives, vos invités, souligne le même esprit d'équipe qui, ainsi élargi, se veut insoucieux des frontières et, par les vues qu'il nous ouvre, enrichit notre patrimoine commun. Combien est-il émouvant pour un archiviste français d'aller retrouver en Hongrie, dans l'écriture des actes publics du XIIIe siècle, les traces d'un enseignement reçu à la cour de Saint-Louis, pour un archiviste du Val-de-Loire, de rencontrer en Suisse, à l'abbaye de Saint-Gall, un manuscrit de l'école de Tours, ou de découvrir les vestiges de Candes sur la Loire à Saint-Martin-d'Agone en Valais, unissant la tradition martinienne à celle du massacre de la Légion thébaine. C'est peut-être l'occasion de nous souvenir que Martin, cavalier du Christ, venait de Pannonie, comme Alcuin, rénovateur des lettres antiques, venait de Northumbrie. Ainsi, notre pays de renaissance, le Val-de-Loire, fut-il de tout temps lieu de rencontre. Mais, me direz-vous, c'est là le passé. N'est-ce vraiment que le passé ? Monsieur le Préfet, vous avec qui je travaille parfois dans le présent, et qui discernait si bien les tâches et les nécessités de notre métier, ce n'est pas un compliment de cour que je vous fais, c'est une constatation. En vous remerciant de ce que vous avez fait à leur égard, je sais que vous y avez des amis, c'est peut-être à peine avouable comme relation pour un préfet, vous me permettrez de vous citer. Dans la plaquette qui conserve le souvenir de cette inauguration, vous avez écrit « Peut-être n'est-il pas paradoxal de croire que l'un des rôles des archives soit précisément entre le passé qu'elles conservent et le présent qui sous leurs yeux se prépare, d'assurer une continuité. Cela, je le crois avec vous. Et mon confrère, Mademoiselle Burel, à qui j'ai confié ici le service des archives modernes, ne me démentira pas. Et puisqu'il est question de continuité, Sans doute est-ce maintenant l'instant d'en évoquer une, celle qui pendant 40 ans fut assurée en Loir-et-Cher par un collaborateur trop modeste, mon ami Albert Dessé, collaborateur de mes prédécesseurs, François Blanchet et André Bédger. Là aussi, nous retrouvons la continuité. Ils sont ici tous les deux et je me réjouis profondément de pouvoir leur dire en public tout ce que je leur dois. Dessé, formé au-delà des vivants par Guy Trouillard, auquel les archives de Loir-et-Cher doivent leurs meilleurs inventaires. Mais cette continuité à laquelle nous revenons toujours et qui se situe normalement dans nos tâches de conservation reçoit son prolongement dans l'action. Un homme manque ici, aujourd'hui, notre ami, un industriel, André Boulle, placé par M. Pierre Sudreau à la tête du comité d'action économique de Loir-et-Cher. Et M. le recteur Antoine, que j'ai été si heureux de voir ici, le sait mieux que personne, dont l'amitié rayonnante, enlevée en pleine lutte, avait cimenté une équipe qui veut poursuivre la tâche en continuant d'abattre les cloisons, en suscitant ce qui unit, en croyant fermement que les actions régionales concertées sur le terrain par leurs promoteurs sont la condition nécessaire de l'équilibre français. Peut-être me suis-je en apparence écarté de mon propos. J'ai voulu du moins fixer devant nos visiteurs le climat de notre travail ici au coude à coude. Pour regagner la petite maison des archives, le rôle de l'équipe des archives, de l'équipe hors du temps, ceux qui furent, ceux qui sont, en attendant ceux qui viendront, est avant tout de servir. Et notre fierté, si nous y avons quelques droits, réside dans la qualité des travaux de ceux que nous avons servis. Je voudrais éviter une énumération, mais je ne puis omettre de citer l'œuvre du docteur Le Sueur, qui est celle de toute une vie. Et pour m'en tenir aux thèses, ce qui laisse dans l'ombre bien des travaux dont l'importance n'est pas toujours secondaire, je pense aux travaux de M. le chanoine Devel sur les artisans blésois qui sont si précieux, aux travaux de M. Bouys sur l'histoire de la Révolution, et bien d'autres, je citerai les auteurs de grandes thèses que sont M. le chanoine Galland, M. Georges Dupeux, M. Bernard Eden, je citerai encore la thèse de mon confrère Jacques d'Orléans, la magnifique thèse de l'histoire des hautes études d'Isabelle Guérin et la thèse de M. Guy de Vailly, la plus récente. Les deux dernières, les plus récentes justement, sont des thèses de médiévistes et le nom de M. de Vailly vient nous rappeler peut-être opportunément qu'il existe de jeunes diplomatistes dans l'enseignement supérieur. La recherche historique reste donc ici très large et très vivante. Et vous me permettrez de nommer pour clore cette liste. Notre jeune confrère blésois Michel Melot, élève à l'école des Chartes, qui vient de faire brillamment ses premières armes au congrès de la Société française d'archéologie, car lui représente l'avenir. Mais pour bien servir, il faut des moyens techniques. Je me tournerai maintenant vers vous, Monsieur le Président, pour vous dire ma profonde gratitude, laquelle s'adresse, au-delà de vous-même, à toute l'Assemblée départementale. Et je n'aurai garde d'oublier votre prédécesseur, qui fut votre ami, pour le courage avec lequel le président Massacré sut, en des temps difficiles, prendre fait et cause pour les archives. On peut dire, je crois, en parlant du président Massacré, qu'il a bien facilité les choses pour le jeune fonctionnaire qu'il avait accueilli si généreusement dans la vieille maison de la rue d'Angleterre. Je ne me répandrai pas ici, vous me le pardonnerez, en effusion, nous préférons certainement, vous et moi, placer la reconnaissance des archives dans les actes. Mais je vous dirai que si je suis conscient du considérable effort financier accompli par le Loir-et-Cher pour ses archives, car enfin, je le dis pour nos amis étrangers, le Loir-et-Cher est un département dont les ressortissants sont très fiers, mais c'est tout de même un petit département, un département qui a des ressources modestes. Blois est une petite ville entre deux capitales provinciales. Je dirais donc que je suis également heureux que le bâtiment que nous avons inauguré aujourd'hui reste en comparant ce qui est comparable, c'est-à-dire à linéaire égal, le moins cher de nos dépôts neufs. Le mérite de l'architecture va aux architectes, messieurs Chalumeau et Barthélemy. Celle de l'économie va, pour une large part encore, à l'exactitude et à la rectitude qui a été la leur. Et s'il subsiste quelques imperfections de détails, faciles à réparer, nulle œuvre humaine n'est parfaite, cette maison qui a été, je le répète, excellemment conçue, qui voisine avec les établissements d'enseignement, pourra, grâce à l'effort d'équipement consenti par le Conseil général, remplir dans un nouveau domaine des archives le service éducatif, une tâche en laquelle je crois. Je m'arrête. Un dernier point. Vous avez aperçu dans le hall d'entrée quelques vitrines. Les unes rappellent un enfant du pays, Augustin Thierry, et je voulais dire ici publiquement notre reconnaissance à l'égard de sa petite nièce pour le don qu'elle nous a si généreusement consenti de l'ensemble des papiers d'Augustin Thierry. Les autres vitrines évoquent à travers Talcy qui nous est cher, Diane et Agrippa d'Aubigné, et pour citer l'expression même du poète Huguenot, Cassandre mettant au cœur de Ronsard toute la poésie française. Ce thème, où les lettres se mêlent à l'histoire, nul ne pouvait mieux l'évoquer que M. André Chanson. Mais vous me permettrez de rappeler, pour terminer, que les motifs de ce thème ont été retrouvés dans nos minutes notariales et que celui qui les renoua, l'helléniste Louis Bodin, maître de conférence à la faculté des lettres de Dijon puis en Sorbonne, blésois de naissance comme de souche familiale, a son nom aujourd'hui sur la plaque de la rue qui conduit aux archives, archives qui se trouvent ainsi placées sous le vocable secret de Cassandre et de son poète.
Dans la plaquette rédigée à l'occasion de cette manifestation, M. André Chanson, dont le nom est si grand et si connu que vous comprendrez que je ne l'accueille qu'en lui disant notre joie et notre respect, a bien voulu m'accorder à une suite d'actions toujours favorables aux archives. J'ai à cet égard quelques scrupules et je dois à la vérité de vous avouer que j'ai eu le bonheur à 3 reprises dans ma carrière d'inaugurer un bâtiment entrepris et mis en chantier par mes prédécesseurs. L'Assemblée départementale, ici, a sa part de cet éloge, et son président l'acceptera en son nom, puisqu'aussi bien c'est elle, avec son président ou ses présidents successifs, qui a pris conscience de la situation qu'il convenait de faire aux archives dans un département qui, comme le nôtre, est si fier de son passé. L'occasion me paraît propice de m'interroger sur la vocation de l'archiviste. S'agit-il de constituer, selon l'expression de notre ami Martin de Mézil, un conservatoire des gloires défuntes? Ce serait restreindre à l'excès une tâche plus vaste. Les archives me semblent être la mémoire collective de la communauté, la gardienne d'une tradition écrite qui bien souvent éclaire le présent, lui donne richesse et résonance. Mais qu'est-ce que le présent, sinon une illusion fugitive qui tire l'avenir vers le passé? Et quelle administration, sinon une création continue, utilisant ce qui a été pour faire ce qui sera? Sauvegarder et rendre accessible l'héritage des siècles, et pour cela participer à la construction du futur, tel est le rôle de l'archiviste. Ce travail de tri et de classement nécessite donc un rare discernement et toute l'application patiente d'un chartiste. Le temps n'est plus où l'on pouvait confier les fonds anciens à une personne qui n'est pas un déchiffreur de titres, mais a assez de connaissances pour bien classer des papiers confiés à sa garde et la prudence nécessaire pour veiller à leur conservation. Ces qualités sont précieuses, certes, mais elles sont insuffisantes. L'œuvre du chartiste étant certainement parmi les disciplines littéraires celle qui fait le plus appel à des connaissances et surtout à une méthode scientifique. Il y faut à la fois un jugement fin et une rigueur presque mathématique dans la démarche. Ordre et clarté sont en effet les conditions d'une exploitation des archives par l'étudiant, par le journaliste, par le plus modeste des chercheurs ou même par l'érudit poursuivant des travaux hautement spécialisés. Le contraste n'en est que plus grand entre la compétence de l'archiviste moderne et l'extrême dévouement qui est son partage. Certes, le temps n'est plus où l'on transportait les fonds dans des barriques à vin, mais le sort qui leur est fait relève de moyens de fortune, et M. Jean-Martin de Mézil a eu raison de retracer l'odyssée des documents anciens. La prédilection des archives pour les chapelles désaffectées, nous en savons quelque chose en Loire-et-Cher, traduit bien les expédients auxquels conduit la pénurie de place. Tant que les tentatives multipliées pour obtenir l'affectation aux archives de bâtiments neufs se heurtaient à des fins de non-recevoir, l'archiviste devait travailler à l'étroit dans des locaux inadaptés. L'accès difficile à la salle de lecture, l'impossibilité d'accueillir les fonds précieux de minutes notariales, l'insécurité des collectivités menacées par le feu ou par l'eau ont été autant d'indices de cette situation critique. L'installation d'un dépôt neuf était donc une mesure de salut public. Ce fut le fruit du concours de volontés convergentes, celle de l'administration, bien sûr, celle de l'Assemblée départementale et de son président, enfin celle du directeur général des Archives de France. Le bâtiment, conçu et construit par messieurs Chalumeau et Barthélémy qui sont ici aujourd'hui, place enfin les archives de Loire-et-Cher dans un cadre digne de les recevoir et propice à leur exploitation par tous les intéressés. Je m'en réjouis aujourd'hui et considère qu'un tel édifice, admirablement situé, clair, vaste et bien équipé, est à l'honneur du département et des archives de France. Il ne reste désormais qu'à œuvrer pour la gloire du passé, pour l'illustration du présent, pour la construction de l'avenir et à joindre à l'intérêt de l'histoire la mémoire des poètes dans ce pays de Loire, cœur de la France, toujours palpitant de ses anciennes émotions, toujours désireux de se les rappeler, toujours tendu vers des émotions nouvelles. Tel est le bonheur que je souhaite à notre archiviste, comme à tous ses collaborateurs.
Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil Général, Messieurs les parlementaires, Messieurs les directeurs généraux et directeurs, Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, depuis le début de cette année, par cinq fois, j'ai fait le geste sacramentel qui consiste à couper un ruban tricolore devant un bâtiment nouvellement construit. Et ce n'est pas que je courais la pâquerette et que j'inaugurais les bâtiments d'autres directeurs que moi-même, j'étais chaque fois devant un bâtiment d'archives. Je dois dire qu'il me reste encore un bâtiment à inaugurer d'ici la fin de l'année, ce qui, pour nos départements, qui maintenant, je crois, atteignent la centaine, nous fait 6 inaugurations dans cette année, et je vous laisse le soin de calculer le temps qu'il faudrait pour que l'ensemble des bâtiments d'archives de la France soient entièrement rénovés à ce rythme-là. Nous n'aurons pas besoin de les rénover tous, car nous avons déjà un certain nombre de bâtiments qui, comme celui-ci, sont tout à fait à la pointe de la construction moderne et prêts à remplir leurs fonctions de la façon la plus fonctionnelle, comme l'on dit à l'heure actuelle. Je dois dire que j'admire un peu cette situation, car nous ne sommes ni l'autostrade, ni l'hôpital, ni le stade, ni l'école. Nous n'avons rien de prioritaire. Nous sommes même frappés de la marque de la non-priorité. Et cependant, nous arrivons à faire notre métier, à remplir notre fonction. Pourquoi ? Peut-être parce que notre métier est un métier de collaboration. Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Préfet, nous le devons au Préfet, nous le devons au Conseil Général. Car si nous ne sommes pas prioritaires formellement, il y a une sorte de priorité qui joue en notre faveur auprès des administrateurs départementaux et auprès des élus départementaux. Je crois simplement que c'est parce que nous sommes profondément liés à cette province française. Parce que vous avez le sentiment que c'est un peu de vous-même que nous abritons, que vous abritez dans nos maisons. Que vous avez le sentiment que c'est un morceau de votre province et un morceau précieux de votre province qui est ainsi mis à l'abri dans ces bâtiments d'archives. Monsieur le préfet, vous vous êtes défendu d'avoir été tellement favorable aux archives. Vous n'y pouvez rien, monsieur le préfet. Vous êtes sur notre carnet rose. Dans la maison des archives, nous avons comme partout le carnet rose et le carnet noir. Le carnet rose est assez fourni. Le carnet noir est extrêmement peu fourni. Mais vous êtes pour nous ces préfets qui ont toujours bienveillance et vigilance à l'égard des archives. Et permettez-nous tout de même de vous en témoigner notre gratitude, comme nous la témoignons aux membres du Conseil général. Si j'avais une méditation à former, et je dois dire que le fait d'avoir inauguré 5 fois et d'avoir encore une 6e inauguration à faire me donne l'impression de la répétition, et j'ai l'impression de répéter devant vous ce que j'ai pu déjà dire à Vesoul, où nous avons un dépôt neuf, à Évreux, où nous avons un dépôt neuf, à Rouen, où nous avons un admirable, mais tout est à la mesure des départements, de leur richesse et de leur puissance. À Paris même, où nous avons hier inauguré un nouveau bâtiment. Si j'avais donc une réflexion à former, je dirais que dans le monde où nous vivons, ce monde qui change, vous êtes gens du bord de Loire, je suis homme des bords du Rhône. Vous avez eu vos bateliers, votre batellerie sur le fleuve. Nous avons eu la nôtre. Et dans le grand poème qui reflète la vie des bateliers du Rhône, patron Appian, qui dirigeait le Caburle, le bateau qui descendait de Lyon vers la mer, patron Appian disait « Le monde vire, le monde tourne ». C'était il y a un siècle. Que dirait-il à l'heure actuelle ?« Le monde est vire », disait-il en provençal. Eh bien, le monde tourne à l'heure actuelle avec une vitesse extraordinaire. Nous sommes en pleine métamorphose, en pleine transformation. Et je crois qu'au moment où l'humanité sent que, chaque jour, quelque chose de nouveau intervient, et que peut-être chaque jour, du fils au père, du frère aîné au frère cadet, et à coup sûr du grand-père au petit-fils, quelque chose s'est rompu, quelque chose s'est brisé, qu'il est difficile de nouer les fils qui devraient être noués parce qu'ils sont à la fois écoupés et emmêlés, je pense qu'au moment où l'humanité vit cette transformation et cette métamorphose, rien n'est peut-être plus utile que cette activité qui est la nôtre et qui consiste à donner au passé son abri, ses bases solides et à le mettre en dehors de toutes ces vicissitudes qui l'ont affecté jusqu'à maintenant. Je dirais même, mesdames et messieurs, que je crois à la vertu du bâtiment d'archives en tant que bâtiment, en tant que façade, en tant que maison s'élevant au milieu d'une ville. Je crois qu'il est utile que l'on dise la rue des archives, le bâtiment des archives, et qu'on l'ait devant les yeux. C'est une sorte de manifestation de cette piété que nous avons à l'égard du passé, de cette vigilance, et je dirais même de cet investissement prudent que nous faisons en le connaissant, parce que peut-être cette connaissance du passé nous permettra de mieux affronter un avenir dont nous ne connaissons pas à l'heure actuelle quels peuvent être les développements ultérieurs. Étrange destin des mots. Nous sommes les maisons de l'histoire. Et l'histoire, jusqu'à maintenant, a servi à désigner ce qui s'était passé derrière nous. Mais les mots se chargent de sens nouveaux. J'en ai eu l'occasion, comme membre de l'Académie française, de le vérifier il y a quelque temps sur le mot « civilisation ». Le président du Conseil d'Italie était venu nous voir, et nous avons étudié devant lui ce mot de « civilisation ». Et nous nous sommes aperçus que ce mot dont nous nous servons tout le temps est un mot d'importation extrêmement récente. Jusqu'en 1750, la langue française l'ignorait. Et il a commencé, sous la plume de Buffon, si j'ai bonne mémoire, à désigner l'état le plus supérieur de l'évolution des sociétés humaines. Et maintenant, par une étrange évolution de ce mot, nous disons les civilisations barbares et les civilisations primitives, ce qui, dans l'origine du mot, n'avait aucun sens. Il n'y avait pas de civilisation barbare et de civilisation primitive, il y avait seulement la civilisation. Et il est clair que si nous formions une méditation sur l'évolution de ce mot, cette méditation nous donnerait pas mal de lumière, mais un certain nombre de lumières qui pourraient être inquiétantes. Eh bien, pour l'histoire, c'est la même chose. L'histoire, pendant des siècles, et jusqu'à nous, c'était le passé. Et voici que, petit à petit, lorsqu'on parle de l'histoire maintenant, dans certaines bouches, c'est l'avenir qui est en question. Le développement de l'histoire, le processus de l'histoire, l'histoire qui est devant nous, nous pensons en vue prospective et nous pensons à l'avance, et l'histoire subit une sorte de renversement qui fait que, comme tournant sur un axe, elle bascule du passé vers l'avenir. Étrange destin que celui des hommes, et je crois que dans ce désordre, car il faut bien l'avouer, il y a un désordre à l'heure actuelle, à l'échelle de la boule, à l'échelle de la planète. Dans ce désordre, rien n'est peut-être plus utile que ces maisons d'ancrage, que ces lieux où tout de même chaque département, chaque grande ville, chaque grande institution trouve son point d'arrimage et d'ancrage sur le passé. Et c'est à ce devoir, à la fois de connaissance du passé, de prévoyance de l'avenir, que nous voudrions pouvoir faire face. Hier, monsieur le préfet, dans le congrès que nous tenions à Paris, certains de nos confrères ont fait le tableau des tâches qui, à l'heure actuelle, s'imposent aux archivistes. J'imagine que si les préfets faisaient aussi le tableau des tâches qui s'imposent à l'heure actuelle à eux, et je peux vous dire que si les directeurs généraux faisaient le tableau des tâches qui s'imposent à l'heure actuelle à eux, on s'apercevrait que ces tâches, quelles qu'elles soient, ont subi des élargissements étranges. Mais après tout, nous en sommes heureux. Et je suis heureux pour ma part de penser que mes collaborateurs, ceux d'ici, M. Martin de Mézil, Mademoiselle Burel et leurs collaborateurs, et ceux que j'ai dans tous les départements, sont non seulement des hommes et des femmes qui savent retrouver ce qui, dans le passé, doit être retrouvé, qui ont la méthode, qui ont la connaissance et le savoir pour le faire, mais aussi des hommes et des femmes présents au monde contemporain, présents à ce monde en évolution, capables d'être, monsieur le préfet, vos attachés culturels, capables, dans la ville où il réside, de manifester la présence d'une activité intellectuelle, d'un don de soi aux choses de l'esprit, d'abord aux choses de l'histoire, mais au-delà des choses de l'histoire, à toutes les formes de l'activité de l'esprit humain. En cela, et modestement, peut-être pas tellement modestement, parce que les qualités qui ne se cachent ou les qualités qui sont limitées en façade n'en sont pas moins profondément des qualités, nous pensons que les maisons des archives de France sont, comme l'on dit à l'heure actuelle, des maisons de la culture, des maisons où une certaine partie de la culture, où une certaine prise d'angle des réalités d'hier, d'aujourd'hui et de demain peuvent être faites, et que, à côté des autres maisons de la culture, vouées au théâtre, au cinéma et à toutes les activités de divertissement ou d'enrichissement de l'heure actuelle, nous sommes, sur ce mode un peu secret, un peu plus retiré, peut-être les maisons de la culture qui portent en elles ce que la culture française a eu de plus précieux et dans le passé, et dans le présent, et par voie de conséquence, nous le croyons, dans l'avenir.
Une seconde de silence pour une communication pratique. Comme nous sommes tous ici très nombreux et que le buffet pourrait être difficile à atteindre, il y en a un second où se trouvent les mêmes excellentes choses que M. le Préfet a bien voulu faire venir dans cette maison. Et je crois que le plus simple serait que la moitié du fond de cette salle se dirige par l'escalier vers le hall et par la porte étroite dans la grande salle du rez-de-chaussée où vous serez servi plus rapidement. Car n'oubliez pas le thème de manœuvre, et que théoriquement dans 5 minutes, vous devriez monter dans vos cars pour gagner Chambord. Alors faites que cette théorie ne soit pas trop loin de la pratique. Je vous en supplie, je sais que vous êtes tous, comme moi-même, très indisciplinés, mais n'exagérez pas. Et je vous remercie à l'avance.